Alors, le départ des trois pays de la CEDEAO est un départ qui est déjà acté pour les trois pays eux-mêmes. C'est vrai qu'en ce qui concerne les perspectives, si l'on regarde aujourd'hui la reprise des actions militaires par les trois armées sœurs, laquelle reprise a permis par endroit de réduire de façon drastique la mobilité des groupes radicaux violents, notamment les gens de l'État islamiste. Donc, pour dire que sur le plan sécuritaire, la mutualisation des efforts, le soutien qui est accordé ça et là de part et d'autre, sont des éléments qui me laissent entendre que l'effectivité de l'AES est une réalité. Et d'ailleurs, pour rappel, depuis mars 2024, la force conjointe de l'Alliance est aussi opérationnelle. Maintenant, en ce qui concerne les perspectives sur les autres domaines de développement, tels que les questions de conflits locaux, les questions des infrastructures sanitaires éducatives et d'autres aspects vitaux de la vie, sont des éléments qui sont pris également au sujet à entendre les différents chefs d'État, dans les différentes prises de parole, on se rend compte que il y a une attention particulière qui est accordée à la nécessité d'aller vers l'exploitation souveraine des ressources naturelles. Laquelle exploitation souveraine pourrait, dans la durée, permettre à ces trois États de se soustraire d'une certaine forme d'exploitation, pour reprendre l'expression. Maintenant, tout cela nécessite du temps. C'est vrai que quand on regarde aussi dans les trois pays, effectivement, tout apparaît urgent. Est-ce que les trois chefs d'État sont-ils en mesure aujourd'hui de mobiliser des ressources suffisantes pour faire face à toutes ces urgences, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé et des autres services sociaux de base? Donc c'est là qu'effectivement, beaucoup voient des limites dans un avenir court.
Alors malgré les difficultés, ces États ont opté pour la création d'un fonds d'investissement et de stabilisation, d'un passeport commun et d'un média commun. Qu'est-ce que vous en pensez?
Et ce sont des choses qui ont toujours manqué à ces trois États. Si vous prenez l'information dans un contexte d'insécurité lié au tourisme, elle est un aspect important, l'information. Et vouloir aujourd'hui migrer vers un média qui soit commun aux trois États afin d'informer les communautés à la fois sur l'insécurité, mais dans le même temps sur les initiatives et politiques qui sont mises en œuvre, c'est quelque chose qui est à saluer du point de vue d'utilité sociale de l'État. L'autre élément important, n'oublions pas quand même que le Sahel est victime aujourd'hui de cette compétition à laquelle les puissances occidentales font l'objet, en l'occurrence le bloc russe contre le bloc occidental. Dans cette compétition, par endroit, il est aisé d'observer que certains médias peinent à s'inscrire dans une sorte d'équidistance, dans une sorte d'objectivité. D'où la nécessité pour ces trois États d'avoir un média qui leur soit propre, non pas uniquement pour restreindre l'accès à l'information, mais plutôt à comment contrôler cette information qui aujourd'hui fait partie des armes, si vous voulez, importantes dans cette lutte contre le terrorisme.
Alors, les observateurs dénoncent l'absence d'opposition dans les trois pays qui composent l'AES. Est-ce que ce facteur n'est-il pas préjudiciable à un espace qui veut faire partie du concert des nations?
Alors, c'est vrai que les dirigeants vous diront qu'ils n'ont rompu avec aucun pays. Ils ont juste tenté de mettre en place des fondamentaux à partir desquels tous les pays qui désirent collaborer avec eux, s'ils venaient à respecter ces principes, ils ne voyaient pas d'inconvénient de collaborer avec ces pays. Mais effectivement, d'une certaine observation, on pourrait être tenté de voir que ces trois pays seraient un peu orphelins vis-à-vis du reste du monde. Il semble qu'il si inquiétude y est, maintenant, c'est d'interroger en termes des avoirs financiers qu'ont aujourd'hui ces trois pays pour faire face à cette nébuleuse terroriste sans bénéficier d'un soutien financier quelconque de la part de ces mêmes puissances occidentales. Mais au-delà, pensez qu'ils sont isolés, ils vous diront qu'ils sont avec la Russie, ils sont avec la Chine, ils sont avec la Turquie, ils sont avec la péninsule arabique, j'en passe. Donc pour dire que Le partenariat, il n'a pas été interrompu, il n'a pas été rompu, mais plutôt il a été redéfini. Nous assistons davantage à un nouveau positionnement de la part de ces États vis-à-vis de l'étranger.
Alors, un an après la création de l'AES, quelles sont les perspectives dans la lutte anti-djihadiste, pour finir?
Alors, concrètement, quand on parle de l'Itakogouma, notamment les différents quartiers généraux qui sont entre les mains de l'État islamique aujourd'hui, ces quartiers généraux ne sont pas entièrement détruits, mais ils ont été sérieusement affaiblis à la suite des actions coordonnées que mènent ces trois États. Donc, peut-on dire que certes, ces trois États ont la graine à moudre pour arriver au bout de l'insécurité liée au terrorisme, mais on n'a pas besoin d'être un expert. Vous ne pouvez aucunement lutter efficacement contre une menace qui n'a pas de frontières sans mutualiser, sans coordonner les actions. De ce fait, peut-on dire qu'aujourd'hui, l'Alliance des États du Sahel, effectivement, s'inscrivait dans cette nécessité de mutualisation des efforts. Mais là aussi, il faut aussi quand même lucide dans l'analyse. Quand on regarde le positionnement vis-à-vis des pays comme la Mauritanie, l'Algérie, et même à certains égards le Bénin et la Côte d'Ivoire, naturellement, ce sont des insuffisances qui pourraient entamer l'efficacité des actions aujourd'hui qui sont engagées par ces trois États dans le cadre de la lutte contre la nébuleuse terroriste, d'où la nécessité d'aller vers des actions davantage régionales que des actions qui seraient entre les mains des trois États, certes qui sont les plus touchés par l'insécurité liée au terrorisme.